Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
9h27, le retour de ce week-end des experts, vie numérique avec Raphaël Grabli. Allez, on attaque notre dossier smartphone. Raphaël, et je pense qu'on va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Vous êtes peut-être, ben voilà, à quelques jours de vous offrir peut-être un joli cadeau, ou peut-être attendre que eh bien quelqu'un de votre famille vous offre un joli cadeau. C'est peut-être un smartphone, c'est le moment de faire le bon choix.
Oui, on s'est dit qu'on allait faire un point là en cette fin d'année sur tous les smartphones, parce qu'après on va rentrer sur la prochaine saison des smartphones, c'est-à-dire la prochaine génération qui va arriver assez rapidement d'ailleurs.
On va discuter avec Samsung.
On parle du 14 janvier, il me semble. Et on va se poser la question, quel smartphone choisir, à quel prix? Parce que les smartphones aujourd'hui, on a même des messages dans Direct Studio qui nous dit « j'ai trouvé un super smartphone à 134 euros », nous dit Sony Stark, un Redmi 9. Et évidemment, ça monte à 1600 voire 2000 euros avec des smartphones pliables d'ailleurs. On va en parler aussi des smartphones pliables ou pliants avec notre ami Nicolas Lelouch. Salut Nico.
Salut Raphaël, comment ça va?
Eh ben ça va.
Salut Nicolas.
Merci Nico d'être avec nous. Déjà, toi, un petit retour d'expérience sur tous ces smartphones. Alors, je sais pas combien de temps t'as testé cette année. Je pense que ça doit être quoi, une 30-40 peut-être. On doit pas être loin. Qu'est-ce qui t'a marqué toi cette année comme principale évolution sur les smartphones?
Ce qui m'a marqué cette année justement, c'est le manque d'évolution. Je vais peut-être te surprendre. Il y a deux raisons à ça. Déjà, je pense que la pandémie, elle a forcément joué contre l'innovation, dans le sens où c'est un petit peu compliqué pour un constructeur de sortir quelque chose de révolutionnaire si les gens ne l'achètent pas. Donc ils ont peut-être gardé pour l'année prochaine quelques nouveautés. Mais d'un autre côté, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de progrès sur la partie photo. Et les innovations qu'on a pu voir l'année dernière sur le haut de gamme, c'est-à-dire à plus de 800 euros, commencent à arriver aujourd'hui sur des téléphones autour des 400-500 euros. Donc c'est assez prometteur pour l'année suivante.
J'ai l'impression, je ne sais pas si tu penses la même chose, mais effectivement que cette gamme des smartphones à entre 400 et 700 euros, c'est beaucoup renforcé cette année. On a eu Apple qui a fait l'iPhone SE. On a Google qui a choisi de faire des smartphones haut de gamme, le Pixel 5, que personnellement j'aime beaucoup pour la photo, qui est exceptionnel.
Qui est l'un des smartphones de l'année, on peut le dire.
Pour moi, il est dans le top 3, mais il est à 650 euros. Donc c'est pas un smartphone à 1200 euros. Est-ce que aujourd'hui, finalement, le meilleur rapport qualité-prix, c'est pas le bon smartphone à 600-700 euros?
Oui, absolument. D'autant plus qu'en fait, il y a une raison à ce succès des smartphones à 400-700 euros cette année, c'est qu'on a eu en fin 2019 la première puce 5G, justement milieu de gamme, et c'est peut-être la puce la plus intéressante du marché parce qu'elle offre des bonnes performances, une bonne gestion de l'autonomie et la 5G. Donc du coup, tous les constructeurs l'ont utilisé et donc on a eu des propositions très intéressantes cette année. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le bon prix en 2020 et faut peut-être pas dépenser plus pour l'instant.
Oui, d'ailleurs, c'était assez étonnant. On s'attendait plus à ce que les premières puces 5G arrivent pour des modèles très haut de gamme. Et puis finalement, d'un coup, ils ont tous sorti les très haut de gamme, mais aussi en même temps, les puces 5G pour les milieux de gamme. Et en fait, on a des smartphones 5G à 300-400 euros aujourd'hui.
Oui, le moins cher, il est à 270 euros en ce moment. C'est un smartphone chinois. C'est le Xiaomi Mi 10 T Lite. Et il y en aura d'autres en 2021. Je pense qu'on atteindra la barre des 200 euros sur la 5G. On en reparlera sûrement tout à l'heure.
Oui, il a fallu attendre quelques années pour atteindre la barre des 200 euros en 4G. D'ailleurs, justement, on va parler des smartphones d'entrée de gamme parce que c'est important. D'ailleurs, c'est ce qui se vend le plus et c'est normal. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 1000 euros dans un smartphone. Aujourd'hui, Nico, j'ai moins de 300 euros. Même peut-être moins si tu as. C'est quoi le meilleur rapport qualité-prix du marché à ce prix-là?
J'ai deux produits en tête sous les 300 euros et ça va être assez simple à retenir pour nos auditeurs parce qu'ils viennent de la même marque. Donc c'est la marque que je viens de citer, c'est Xiaomi qui s'écrit donc Xiaomi, X-I-A-O-M-I.
Eux, on a l'impression qu'ils sont toujours sur le rapport qualité-prix, ils sont sur le coup depuis 3-4 ans maintenant.
C'est vrai, hein.
Ouais, oui, c'est incroyable.
Ils sont vraiment, vraiment excellents et pour le coup, sur l'entrée de gamme, ils ont réussi à tuer la concurrence et il n'y a pas vraiment de bons rivaux à Xiaomi. Enfin, pour moi, les téléphones Xiaomi à 200 euros, c'est à peu près ce que la concurrence fait à 300 ou 350 euros. Donc ça vaut vraiment le coup et si vous avez un petit budget, c'est les meilleurs produits. Donc les deux références que j'ai en tête, le Midi Stellite qui est donc du coup un téléphone 5G qui coûte 299 euros. Donc celui-là pour le coup c'est un petit peu un pari d'avenir, c'est-à-dire que vous allez payer peut-être un petit peu plus que si vous auriez pris une version sans 5G, mais au moins vous êtes sûr que votre téléphone sera compatible avec le futur réseau. Et l'autre référence qui pour le coup est mon gros coup de cœur de l'année sur l'entrée de gamme, c'est le Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui coûte entre 230 et 270 euros aujourd'hui sur le marché. Il y a même des promotions, on peut le trouver plus bas. Et pour le coup, cet appareil est juste excellent. Et c'est ce que je disais, c'est qu'on a l'impression d'avoir un appareil qui coûte le double.
C'est dingue le Mi 10 T Lite. Alors le problème de Xiaomi, c'est les noms, hein, parce que franchement, c'est un peu imbitable. Mais quand on regarde, il est à 279. Effectivement, il a même un processeur Snapdragon 750. Alors, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est un processeur milieu de gamme assez solide, quoi, assez costaud.
Carrément.
C'est pas du tout un truc avec
Xiaomi, c'est qu'ils arrivent vraiment à casser les prix. C'est un peu, je pense, similaire à ce que tu disais tout à l'heure sur les ordinateurs. Je t'ai entendu avec Lenovo.
Oui.
C'est que comme Xiaomi a des dizaines et des dizaines de références sur le marché, ils achètent beaucoup de composants et ils peuvent du coup casser les prix assez facilement en récupérant des choses d'autres gammes.
Et d'ailleurs, j'en profite, hein, comme pour un ordinateur, je disais les 200 euros entre les 600 et les 800 euros sont les plus importants. J'aurais tendance à dire si on le peut, toujours évidemment, j'ai envie de dire les 100 euros entre les 150 et 250 euros.
Ça vaut peut-être le coup de les rajouter.
Proportionnellement, c'est énorme. Hein,
ouais,
ça
tout.
Mais si on peut mettre 250 euros plutôt que 150 euros dans un smartphone vraiment d'entrée de gamme, ça va changer considérablement les choses.
Justement, Nicolas, à ton avis, quel est le prix plancher aujourd'hui pour avoir un smartphone digne de ce nom ?
À l'exception de Xiaomi qui propose des produits dignes de ce nom à un prix inférieur à 300 euros, je pense que c'est autour des 350 euros, 399 euros qu'on a vraiment des produits qui ne sont pas seulement bons mais qui sont durables. J'ai pas mal de références en tête, notamment chez Google, chez OnePlus, mais c'est ces produits-là qui vont vraiment avoir un bon rapport qualité-prix et je pense que dans 3 ans l'appareil sera encore fonctionnel alors que souvent sous ce prix c'est un petit peu plus fragile et ça risque de ralentir avec le temps et donc c'est peut-être un petit peu moins recommandable si vous voulez le garder longtemps.
Oui, parce qu'il y a des marques qui proposent des smartphones à moins de 100 euros, hein, 150 euros. Tu déconseilles ce type de smartphone ?
Oui, je les déconseille. Je pense souvent, c'est ce que disait Raphaël il y a quelques secondes, qu'il vaut mieux peut-être économiser plus longtemps pour justement ou attendre peut-être une promotion et mettre les 100 euros supplémentaires pour atteindre le prix plancher des 250-300 euros plutôt qu'aller sur un produit pas cher à 150 euros, à moins de 100 euros. Qui risque pour le coup de vous plaire pendant le premier mois d'utilisation et puis vous allez vous rendre compte que la qualité photo n'est pas du tout à la hauteur, que l'autonomie va s'effondrer et vous allez vite avoir envie de sortir et finalement, en l'espace de 3 ans, vous aurez changé 3 fois de téléphone et donc vous aurez dépensé largement les 300 euros d'un produit un petit peu meilleur.
Mais je pense qu'on vit un peu un âge d'or, entre guillemets, pour les amateurs de Xiaomi en France parce qu'en fait, comme ils essaient de s'implanter, ils sont très agressifs sur les prix et sur ces modèles-là, en fait, ils gagnent pas d'argent. C'est pour ça qu'ils sont moins chers que les autres aussi. C'est parce que non seulement ils achètent beaucoup plus de composants, mais ils font pas de marge ou quasiment rien. Donc c'est vrai qu'on en profite à des prix vraiment intéressants. Justement, tu parlais de Google, Nico, parce que moi cette année c'est Google qui m'a marqué parce que ils ont créé une gamme. Alors il y avait un smartphone Google qui s'appelle le Pixel qui sortait tous les ans, mais cette année ils ont créé une vraie gamme de smartphones avec le Pixel 4a qui est, je pense, le smartphone auquel tu faisais allusion pour le rapport qualité-prix. Est-ce que finalement c'est pas, alors j'allais dire le grand gagnant, c'est difficile parce que Google malheureusement ils vendent pas en quantité, c'est pas encore ça, ils arrivent pas encore à bien commercialiser leurs produits, c'est pas leur métier, ils sont en train d'apprendre. Mais par contre en tant que client, en tant qu'utilisateur,
c'est vraiment une bonne affaire.
Est-ce que c'est pas le meilleur plan cette année ?
C'est de loin le meilleur plan. C'est la marque la plus intéressante à suivre dans les mois et années qui viennent, je pense, parce qu'ils sont vraiment en train de proposer des produits très intéressants. Et c'est même la seule marque américaine avec Apple sur le marché aujourd'hui. Et donc, ils ont une proposition différente du marché asiatique. Et donc, ça nous convient bien plus à nous, utilisateurs européens, d'avoir des petits téléphones, d'avoir des produits forcément un petit peu moins compliqués à l'utilisation. Donc du coup, les Pixels sont vraiment d'excellents produits. Donc en effet, leur gamme, elle est super. Il y a le 4A qui coûte 349 €, qui est excellent en photo et qui est tout petit. Donc ça, c'est génial. Alors, pour ceux qui adorent.
À ce prix-là, je précise, et pour l'avoir testé assez longtemps, à ce prix-là, on a juste l'un des meilleurs appareils photo du marché. Enfin, smartphone en photo du marché à 360 €. Il faut juste se resituer.
Voilà, c'est, non, c'est assez incroyable s'ils arrivent à faire Google. Et après, si vous voulez monter en gamme, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, que ce soit pour vous ou pour offrir à Noël, deux produits, le Pixel 4a 5G à 499 €. Vous l'avez compris, hein, c'est à peu près le même que le 4a, mais avec de la 5G. Et surtout, il a une autonomie absolument délirante. Il tient 3 jours sur une seule charge. Assez incroyable. Et enfin, si vous voulez vraiment... Mais ça, celui-là, je pense qu'il va plus se destiner aux amateurs de nouvelles technologies parce qu'il n'apporte pas vraiment de fonctions incroyables. C'est le Pixel 5 qui coûte 629 € et qui reprend à peu près les mêmes caractéristiques que les autres produits, mais avec un dos en aluminium, avec de la recharge sans fil. Donc, c'est un petit peu plus gadget, on va dire. Mais en tout cas, les 4A et 4A 5G, c'est d'excellents rapports qualité-prix. Et je suis d'accord avec toi, Raphaël, c'est la marque qui m'a le plus marqué en 2020.
On va revenir dans un instant, il est 9h37, on aura Pierre au 32-16 qui aimerait avoir un conseil. Il a un Samsung Galaxy S9, d'accord, et il aimerait bien s'offrir un nouveau smartphone. On va essayer de l'aiguiller, hein. Est-ce qu'il veut rester dans la gamme Samsung? Est-ce qu'il veut partir vers la concurrence? On va écouter la question de Pierre dans un instant. On parle smartphone, on vous donne des conseils pour bien choisir peut-être en cette fin d'année votre nouveau smartphone. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, c'est RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre vie numérique.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Quasiment 10h moins le quart, le week-end des experts, la vie numérique. On est là jusqu'à 10h avec Raphaël Grabli, Nicolas Lelouch, journaliste à 01net, qui nous donne un maximum de conseils pour bien choisir son smartphone à quelques jours de Noël. C'est vrai qu'on a peut-être un petit peu d'argent pour se faire plaisir.
Oui, et puis il y a une marque dont il faut qu'on parle, forcément.
Bien sûr.
C'est Samsung, hein, qui va arriver dans l'actualité, on va en reparler, mais on a un auditeur d'ailleurs qui a un Samsung et qui aimerait peut-être en changer.
C'est Pierre qui est là. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Raphaël.
Bonjour Pierre.
Bonjour François, bonjour Nicolas.
Salut.
Alors,
Pierre.
Alors, j'avais une question. J'ai un S9 qui arrive tout doucement en fin de vie. Je souhaiterais le remplacer par un téléphone avec des caractéristiques plutôt haut de gamme, parce que j'y suis habitué. J'ai fait une étude de marché rapide. Je pense pas que ça vaille le coup de mettre aux alentours de 1 000 € cette année. De ce qui ressort de ce que j'ai vu, alors j'hésitais plutôt entre soit le Pixel... soit le Samsung S20 FE. Alors, j'aimerais avoir votre avis.
Ah, alors là, je vais laisser Nico parler, parce que ce S20 FE, il faut qu'on en parle.
Le S9, à quel âge, c'est... en fait? Il a quoi, 3 ans, non? C'est
il
ça?
Il a 3 ans, oui.
Pierre?
Oui, oui, tout à fait, mais c'est matériellement, surtout, il vit au quotidien, quoi. Donc, à force,
ouais, il a été bien sollicité.
Il a un peu, voilà, c'est ça.
Oui, on précise, il n'a pas 11 ans, puisqu'on est au S20 et qu'on était le S9. Il n'y a pas, on sait que Samsung a fait S9, S10 et S20.
Et S20
on précise,
hein, ouais.
Il n'a pas 11 ans. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses de ce S20 FE qui est sorti là à la rentrée? On le voit beaucoup d'ailleurs en pub à la télé et qui est finalement pas si cher que ça.
Oui, bonjour Pierre. Vous avez fait une très bonne sélection parce que sur 3 produits que je pensais vous recommander, il y en a 2. Donc bravo. Mais du coup, donc le Galaxy S20 FE, il est bien pour vous, surtout si vous êtes déjà un fan de Samsung et que vous êtes habitué à Samsung. Et il a une particularité en fait, c'est que Samsung, qui a l'habitude de faire des smartphones haut de gamme très chers et des smartphones milieu de gamme un petit peu moins bien à un prix plus abordable, cette année ils ont tenté de faire ce qu'on appelle un flagship killer dans le marché, c'est-à-dire un smartphone haut de gamme à prix cassé. Et ce S20 FE, il coûte 759 € dans sa version 5G et il coche à peu près toutes les cases. Je dis souvent de lui que ce smartphone n'est le meilleur en rien, mais qu'il est très bon en tout. Dans le sens où vous avez un excellent écran lumineux OLED, vous avez une très bonne batterie, vous avez de la compatibilité 5G, vous avez peut-être un des meilleurs appareils photo du marché, de la recharge sans fil, bref, on a vraiment tout sur cet appareil. Donc si vous aimez Samsung, je pense que ça peut être un très bon choix. Je pense aussi à un prix inférieur au OnePlus 8T, que vous allez trouver autour de 600 €, qui du coup sera 150 € moins cher que le Galaxy S20 FE, mais ces deux appareils sur la catégorie des smartphones haut de gamme, c'est peut-être mes deux choix de 2020.
Oui, Pierre, allez-y, hein, discutez avec Nico, profitez-en.
Oui, en effet, c'est vraiment ce que je disais. Alors, j'ai pas un amour particulier pour Samsung. Donc, c'est vraiment entre ces produits. Si par exemple vous aviez à en prendre un par affinité, vous iriez plutôt vers lequel?
Si ça ne tenait qu'à moi, je pense que je mettrais les 150 euros supplémentaires pour le Galaxy S20 FE. Je pense que vous avez avec Samsung quand même une expérience, un confort, un vrai service client derrière. Et que surtout en venant d'un Galaxy S9, vous risquez pas d'être dépaysé et que c'est plutôt une très bonne chose. Maintenant, j'insiste sur une chose. Il y a deux modèles du S20 FE, le modèle 4G, le modèle 5G. Au-delà de la question de savoir est-ce que vous avez besoin de la 5G, le modèle 5G a un meilleur processeur et dispose d'une meilleure autonomie. Donc, il y a absolument aucune hésitation là-dessus. Si vous prenez le S20 FE, prenez le modèle 5G.
Donc, il y a 100 euros de plus, hein, c'est ça, Nicolas.
100 euros de plus, c'est 750. Après, il y a sûrement des promos aussi.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a des promos, donc je pense que vous l'aurez à moins de 750.
Et on précise, le S20 FE aussi, enfin je trouve, est meilleur en photo quand même assez significativement que le OnePlus. OnePlus, j'adore ce téléphone, mais le S20 FE est quand même excellent en photo, il me semble.
Absolument, oui. Pour le coup, on a le même appareil photo que sur un Galaxy S20 à 1000 euros. C'est un bon rapport.
Et en plus, il y a plein de couleurs sympas. Enfin, c'est un smartphone fun.
À mon avis, il fait un carton celui-là. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous pour en vendre. À mon avis, il doit bien marcher. Nico, justement, je voulais rebondir sur les smartphones 5G. Toi qui testes la 5G à Nice, puisqu'il y a la 5G, il me semble, Bouygues Télécom, alors Orange et SFR, il y a les trois. Est-ce que aujourd'hui, avoir un smartphone 5G dans une zone couverte évidemment par la 5G, avec un abonnement 5G évidemment, est-ce que ça change les choses ?
Alors je vais vous répondre en deux points. Est-ce que la 5G est vraiment révolutionnaire et va changer votre vie ? Non, absolument pas. Maintenant, est-ce qu'elle va l'améliorer ? Et c'est peut-être là que c'est plus intéressant, dans le sens où en soi, vous n'allez pas vraiment voir la différence entre la 5G et de la bonne 4G aujourd'hui. Ça va prendre plusieurs années avant d'arriver. Maintenant, ce qu'il se passe si vous avez un téléphone éligible 5G et un forfait 5G, c'est que quand tout le monde est connecté sur une antenne 4G et que donc du coup le réseau est saturé, et ben vous allez avoir presque l'antenne pour vous tout seul, parce qu'il y a forcément moins de monde sur la 5G pour l'instant. Donc ça va vous permettre de profiter d'une meilleure qualité de réseau que les autres personnes qui n'ont pas encore un téléphone 5G. Donc pour l'instant, j'ai plutôt tendance à vous dire que si vous devez choisir, prenez un forfait 5G, prenez un téléphone 5G.
Parce qu'on est encore tout seul, quoi.
Parce qu'on est encore tout seul et parce que, en réalité, il vaut mieux avoir. Personne ne vous demande de choisir entre la 4G et la 5G. Si vous avez un appareil 5G, vous avez accès aux deux. Donc, vous avez accès à tout le spectre télécom. Donc, c'est une meilleure chose. Maintenant, je ne veux pas mentir ou induire les gens en erreur en disant que la 5G est révolutionnaire. Ce n'est vraiment pas le cas. Donc, est-ce que voient mes tests pour l'instant, c'est que les différences sont.
Donc, si je résume, c'est ça ne sert à rien de changer de smartphone pour acheter un smartphone 5G. Si on a le choix à choisir, vaut mieux prendre un 5G.
Voilà. Si on est dans cette étape de changement. Tiens, à noter qu'on vous a fait une émission spéciale 5G la semaine dernière, que vous pouvez retrouver en replay sur l'appli RMC. On recevait le directeur général de Bouygues Télécom et on apprenait beaucoup de choses sur la couverture, sur le coût de la 5G, etc. à retrouver donc sur l'appli RMC. On a Aïk qui est là. Je ne sais pas si on prononce Aïk, j'en suis désolé.
Très bien,
si
c'est Aïk, c'est parfait.
Bonjour et bienvenue.
Alors, moi j'ai une petite question. Je suis habitué d'avoir des Sony. Actuellement, j'ai une Xperia Z5 Premium parce que j'aime bien leur qualité de photo. Et donc elle date un petit peu maintenant. Donc j'aime bien les renouveler tous les 5 ans vu les tarifs des appareils photo des smartphones plutôt. Je cherche un appareil smartphone avec la meilleure qualité photo qui existe sur le marché. Il y a le Z5, il y a le Z. Non, ça s'appelle pas le Z, c'est le Xperia 5.2 ou le 1.2.
Oui,
1.2.
Oui.
1.2,
oui,
comme ça. Je sais pas si je prononce bien parce qu'ils ont mis 2.
Oui, c'est ça. C'est juste que le nom est pourri, mais oui, c'est ça.
Voilà, exactement. On confirme. Et donc, comparé par rapport à ce que je viens de comprendre dans l'émission, le Pixel est pas mal comme appareil photo aussi. Bien sûr, couverture 5G, batterie qui tient longtemps, etc.
Donc, et quel est votre budget?
Est-ce que c'est bien comme appareil le Sony?
Et quel est votre budget?
Le budget, vu que j'achète tous les 5 ans, je peux aller jusqu'à 800, 900.
D'accord, c'est un bon budget.
C'est un bon budget. Ouais.
Je vais laisser Nico répondre peut-être en précis. Enfin, moi, Sony, je ne recommanderais plus tellement. Mais
ah bon?
Non, okay. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que
Nico,
c'est.
Nico, qu'est-ce que tu en penses?
Mais je laisse répondre Nico.
Oui, déjà le vrai problème de Sony aujourd'hui, c'est qu'ils sont devenus tout petits sur le marché. Et quand un acteur est tout petit, bah, logiquement, il entretient moins ses appareils. Il va y avoir forcément un peu moins de mises à jour et moins d'attention des développeurs d'applications pour les smartphones Sony. Après, si vous aimez vraiment Sony, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment fans de Sony et je comprends parce que leurs produits sont assez uniques sur le marché. Je recommanderais pas le Xperia 1-2, mais plutôt le Xperia 5-2, qui est celui qui est un petit peu moins cher, mais qui a surtout une meilleure autonomie. Donc en soi, pourquoi pas, l'écartez pas. Et si vous aimez vraiment Sony, c'est un bon produit qui a une bonne qualité photo.
Mais en photo, il est moins bon que des smartphones beaucoup moins chers quand même.
C'est ça, il est moins bon. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mauvais. Je trouve qu'il y a eu un vrai rattrapage de Sony en 2020. Ils sont meilleurs que les années précédentes. Vous l'avez dit vous-même, Mike, le Pixel 5, c'est pour moi la référence en photo aujourd'hui et il est supérieur en tout au smartphone de Sony et surtout moins cher puisque vous l'aurez à 629 €. Et oui, avec tous les avantages qu'il y a d'avoir un smartphone Google, à savoir la compacité, l'autonomie et surtout, vous allez avoir plein de mises à jour logicielles en premier, c'est-à-dire qu'en août prochain, vous aurez le nouvel Android, en août 2022, vous aurez le nouvel Android, en août 2023, pareil, oui, alors qu'avec un autre smartphone Android,
il faudra attendre plusieurs mois.
Mises à jour. Oui, donc c'est un téléphone qui va, vous avez l'air d'être quelqu'un qui garde les téléphones longtemps. Eh bien, vous êtes typiquement la cible du Pixel parce que vous allez avoir un téléphone qui va s'améliorer pendant 3 ou 4 ans. Et ça, c'est quand même un plus, surtout qu'il est vraiment excellent en photo.
Typiquement, on parle de la durabilité. Très rapidement, Nico, on nous parle parfois du Fairphone. C'est ce smartphone qui est réparable. Qu'est-ce que tu en penses de ce Fairphone? C'est le smartphone qui se présente comme écolo et durable.
Malheureusement, je pense que le concept du Fairphone est très bon, mais qu'il n'est pas du tout réaliste sur le marché du smartphone, où tout évolue très vite, où il faut avoir des composants de dernière génération, et où en fait, le Fairphone, justement pour des raisons écologiques, utilise des composants qui sont souvent déjà obsolètes avant même de sortir, est assez cher, et du coup, je vous donne un exemple tout bête, on a une batterie qui est amovible sur le Fairphone, donc ce qui permet techniquement de changer de batterie plus facilement. Le problème, c'est que la batterie du Fairphone, elle est à 2 à 3 fois inférieure à la batterie d'un smartphone normal. Donc en fait, il vous faut 3 batteries pour avoir une aussi bonne autonomie.
Oui, donc c'est contre-productif.
Exactement.
Donc, c'est encore balbutiant comme concept, hein, on a l'impression.
Bonne, j'ai plutôt tendance.
Puis il est cher, il est à 500 euros, il me semble.
C'est ça, complètement. J'ai plutôt tendance à dire qu'un iPhone SE ou même un Google Pixel, qui sont des smartphones qui vont avoir beaucoup de mises à jour et qui sont longtemps pris en charge par leur constructeur.
Ils sont plus durables, finalement.
Samsung, ils sont peut-être plus durables. Après, reste toute la question éthique de l'origine des composants, de la fabrication. Et là, c'est sûr que je ne peux pas défendre les grosses entreprises alors que Fairphone est un petit peu plus clean.
Merci Nicolas. Nicolas Lelouch, donc journaliste à 01net.com, que vous pouvez retrouver aussi très régulièrement sur la chaîne 01 TV, hein, chaîne dédiée à la tech, que vous retrouvez sur 01nettv.com, sur YouTube et sur les box aussi.
On va parler, on va faire un petit best-of de tous nos meilleurs produits de l'année. Tiens, on va faire une sélection plus globale. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs, s'ils ont des coups de cœur cette année aussi, à nous en parler pour qu'on puisse un peu échanger sur ces produits coups de cœur avant
le best-of de l'année 2020.
Le best-of tech de l'année 2020.